Bonjour à tous, bienvenue pour cet après-repas et pour une mise en bouche digestive. Nous allons commencer par une petite animation musclée pour vous présenter un géant de la bande dessinée qui a marqué la science-fiction de ces dernières années, autant par sa puissance que par sa rareté. Donc allons-y, monsieur Denis Bajram.
À vous les studios.
Ça assoit.
Ça met l'ambiance. Une histoire joyeuse de la comédie avec Louis de Funès.
Bienvenue, cher Louis de Funès. Alors, Denis, quoi dire après ça? Une telle introduction pour nous dire que nous allons vivre une seconde période d'attente. Alors, peut-être pas aussi longue que pour la première, mais comment présenter Universal War, cette guerre universelle dont le titre est sorti après une boutade de soirée, certainement, et qui a fini par imposer sa marque de fabrique sur la dernière décennie, autant dans la science-fiction en bande dessinée que dans la science-fiction littéraire, parce que je pense que tout le monde est d'accord pour reconnaître que la qualité scénaristique de la série en a surpris plus d'un. Donc, est-ce que tu peux nous raconter juste pourquoi Universal War 1 et à quel moment est-ce que ça t'a semblé important d'attaquer un tel monument ?
C'est une coïncidence en fait. En 97, je me suis un peu fâché avec mon précédent éditeur qui voulait pas que je devienne auteur complet. Faut remonter à l'enfance pour se rendre compte de ce que c'est ma manière de faire de la bande dessinée. J'ai appris à dessiner pour faire de la bande dessinée. C'est-à-dire, je n'ai jamais vraiment fait de dessin à part. Quand j'avais 8 ans, je faisais des petits albums de 20 pages. L'été comme ça sur Goldorak en l'occurrence. Je pourrais peut-être vous montrer ça.
Donc rapidement. Il y a encore des BD inédites de Denis Bajram.
Oui, des superbes BD inédites de Denis Bajram, oui. Mais voilà, donc j'ai continué à faire ça toute mon adolescence. J'avais la bougeotte de la BD, quoi. C'était, alors j'ai changé de style tous les ans. Il n'y avait pas une année où j'avais le même style. Il n'y avait pas une. Il faut que je remonte juste les pages parce que c'est un livre d'entretien en fait. Donc, on va voir si j'y arrive rapidement. Mais c'était dessiné pour faire de la BD et pas. Ah voilà, on est passé dessus. Ouais. Il n'y a rien derrière. Ah oui, parce que je suis pas sur le bon écran, c'est ça. C'est un livre d'entretien, en fait, si ça t'intéresse, qui s'appelle Bajram, des structures d'univers, qui a été fait il y a 3-4 ans. Alors voilà, il y a des jolies photos de moi quand j'étais petit. Voilà, donc ce genre de sympathiques choses que je faisais quand j'étais gosse, avec un grand scénario, des grands dialogues, des magnifiques couleurs au pastel gras, et surtout je dessinais en recto verso sur du papier de listing informatique, donc une capacité à se conserver pour l'avenir. C'est excellent. Ça donne juste une idée de ce que c'est qu'être passionné de BD quand on a 10 ans ou 9 ans, parce qu'on regarde la télé un petit peu, qu'on voit Goldorak, et puis après parce qu'on lit un Michel Vaillant, alors on fait des histoires de gars qui font des courses de voitures, puis on lit un bouquin sur l'Atlantide. Alors bon, le gars qui fait des courses de voitures, il est en fait le roi de l'Atlantide. Faut pas chercher le rapport, hein, mais Et ainsi de suite. Et jusqu'à 12-13 ans, lire des Marvel, alors se dire, je vais faire mes premières bandes dessinées.
Deux secondes, je rebondis en fait sur les images que l'on vient de voir précédemment. Comment est-ce que, juste pour l'aspect pratique de ta formation, entre guillemets, de dessinateur, comment est-ce que tu passes de Goldorak donc à Universal War
par exemple,
termes de dessin?
Ça, c'est 2-3 ans après. Dans Okapi, il y a une histoire qui paraît que je trouve bien, mais j'aime pas le dessin. Alors je redessine l'histoire.
Et en termes de cursus au niveau dessin
Pour l'instant, c'est l'école, toujours l'école, encore l'école. Et alors j'ai un prof de dessin en 6e qui m'explique comment faire de la perspective. Ce qui fait que je fais des perspectives dans mes BD assez jeunes. Alors là, par exemple, j'avais ressorti ça parce que c'est un truc que j'ai fait quand j'avais 11 ans, où on peut reconnaître déjà des scènes d'Universal War One avant l'heure. Le plaisir de détruire New York, des choses qui sont restées ancrées. Quand j'ai fait ça, j'avais 12-13 ans, des vaisseaux, des batailles. C'est la BD dont je parlais avec l'histoire de l'Atlantide bizarre. Il y a la découverte du comics quand j'ai 11-12 ans. Et je commence alors à dessiner des super-héros. Donc j'ai fait des histoires, longues histoires avec Fatalis.
Il y a les premiers goûts de l'ancrage.
Par exemple, on voit, là, j'ai mis ça dans le livre, parce que d'un côté, il y a la page que je fais quand j'ai 15 ans, et puis la même page refaite quand j'en ai 16. Donc voilà ce qui se passe en une année dans la tête d'un jeune dessinateur. Pareil sur celle-là.
Ah oui, l'adolescence...
Ça me travaille, ça le dessin, à l'époque. Ouais. Alors, je suis en train de faire mon lycée en faisant des maths. Mes parents me destinent à l'école d'ingénieur. Mais je dessine tout le temps, dès que je suis enfermé dans la chambre. Il y a l'ordinateur et le dessin, c'est les deux passions. Enfin, ce qu'on appelait un ordinateur à l'époque. La puissance de calcul d'une montre, maintenant, je pense.
Tu as une première formation scientifique, entre guillemets.
Je suis un matheux, naturellement. J'ai même fait partie des gens qui, quand ils étaient en cours de maths, on leur expliquait des choses, ils disaient « Ah bah oui, bien sûr !» Là où tout le monde à côté faisait oh. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste sans doute des neurones qui se sont mis en place dans le bon sens à un moment, mais voilà, donc c'est vraiment ça c'est la toute première période.
Et alors quand tu dessines, tu as cette même approche, disons, précise et scientifique, à savoir tu dessines en ayant conçu ta planche, en ayant conçu ton dessin, ou est-ce que tu te lâches en compé freestyle et en attendant le résultat?
À l'époque, je ne sais pas, ça commence à être loin. Maintenant, je sais. Je dessine en faisant des storyboards, c'est-à-dire que je commence par faire des séquences de bande dessinée de 5, 6, 7 pages d'un coup. Et je dois dire que quand je fais ça... Alors en 97, quand j'écris Universal War 1, on va revenir là-dessus, j'ai écrit l'intégralité d'Universal War 2 et 3 d'affilée. Donc j'ai écrit 18 tomes. En 97, donc je suis toujours dans l'exécution de ce grand plan depuis cette époque-là.
Juste une phrase que j'ai cru entendre, à savoir que la première série était quand même la moins intéressante.
J'avais dit qu'un éditeur, mais j'avais claqué la porte de mon précédent éditeur. Un nouvel éditeur, Mourad Boudjalal chez Soleil, me dit « Fais ce que tu veux parce qu'il croit en moi ». Et donc je me retrouve dans ma petite chambre Angoulême à me dire « J'ai le droit de faire ce que je veux ». Et je ne savais pas quoi faire. Parce qu'évidemment, après avoir réclamé à corps et à cri le droit de tout faire, d'un seul coup, je me retrouvais avec le droit de tout faire, et c'est pas la même chose. Et j'ai couché sur papier, tout bêtement, toutes les idées qui me passaient par la tête. Probablement l'intégralité de mes lectures de SF depuis que j'avais l'âge de 10 ans, des tonnes d'influences, j'ai commencé à noter des tonnes de choses comme ça. Et je me suis retrouvé devant un fatras d'envie, alors des voyages dans le temps, du space opéra, de la SF politique, parler de la lutte entre le libéralisme et la puissance publique, les grandes entreprises, la colonisation, enfin des tonnes de sujets comme ça. Et j'ai passé la semaine qui a suivi à mettre en ordre en fait tout ça et à me rendre compte qu'il y avait de quoi au moins faire 20 bouquins. Et donc à commencer à créer des sous-chapitres, donc trois saisons finalement, coupées après en 6 tomes, etc. Et j'ai en effet classé dans l'ordre, en partie, une des raisons de ce classement, c'est des idées les moins intéressantes vers les plus intéressantes. Donc normalement, Universal War 2 doit être meilleur que le 1 et le 3 devrait être meilleur que le 2. J'ai aussi été dans l'ordre de la complexité, c'est-à-dire que le début est le plus simple. D'accord. Non pas que je vais faire plus compliqué après, mais ce qui est après implique ce qui est au début, donc je n'ai plus à l'expliquer, donc je peux aller plus loin. C'est ça l'idée. Il est hors de question de faire des choses... J'ai pas envie de... Je fais pas de l'art savant, je fais de l'art pop. Mon principe, c'est que si je demande à quelqu'un d'ouvrir une serrure, il faut que je lui ai donné la clé avant. Par exemple, les clés d'Universal War 2 sont dans Universal War 1.
Alors, est-ce que tu as, dans cette idée d'avoir effectivement expliqué les clés, ou en tous les cas de les avoir posées, même si on ne les a pas toutes comprises ou trouvées, par exemple, dans le premier tome donc, de la seconde série, la maîtresse d'école reprend un petit peu en cours d'histoire, sans faire de spoiler, mais...
Il était hors de question que je commence pas la série sans resituer le contexte.
C'était obligé de resituer, quoi.
Non seulement pour d'éventuels nouveaux lecteurs, je savais que je changeais d'éditeur et que ça pouvait ouvrir des portes à des nouveaux lecteurs, mais surtout pour les anciens qui ne sont pas obligés de se retaper des 6 tomes pour se remettre dans l'ambiance, parce que bon, tout le monde n'a pas toujours le temps de repasser 3 soirées à se refaire l'intégrale avant de démarrer un nouveau tome. Donc il y avait vraiment l'idée de simplifier la vie à tout le monde, mais aussi, surtout, de donner les clés au bon moment à chaque fois. Quoi. Voilà.
Et alors, est-ce que, par exemple, ce que l'on perçoit quand même en filigrane dans la série, à savoir que c'est quand même jonché de grands événements catastrophiques, on est à peu près d'accord, hein, puisque entre la destruction de la Terre-Mère et dans la seconde série, accessoirement, un attentat que tu m'as dit comment ? Ne pas être un attentat de complaisance. J'ai beaucoup aimé ce mot. Alors, sans faire de spoiler, il y a quand même. Est-ce que cette série, ancrée dans en tous les cas, jonchée d'événements tragiques, en fait, ça vient de quoi? Alors, c'était la revanche de se dire, tiens, le premier éditeur n'a pas voulu, on va pendre un truc très fort. Ou est-ce que c'est vraiment ta vision du monde ou ta vision, en tous les cas, d'un avenir proche ou moins proche?
La raison pour laquelle j'ai écrit Universal War One et que ça s'appelle comme ça, c'est que j'ai l'impression qu'on est en guerre et qu'on ne le sait pas. On est dans une sorte de guerre universelle qui remplit toutes les strates de notre société, alors qu'on a l'impression de vivre en paix, en tout cas en France, depuis très longtemps. Or, pour moi, la guerre s'est déplacée. Elle s'est déplacée sur le terrain du travail, elle s'est déplacée sur le terrain de la compétitivité, elle s'est déplacée sur le terrain culturel, elle s'est dépassée sur 2 tonnes de terrain, mais on n'en parle jamais parce que c'est des guerres avec des morts invisibles. Parce que je sais qu'il y en a des morts au travail. Parfois on dit « Ah, il y a eu trop de morts chez Orange, alors on en parle. » Elle s'est déplacée aussi au niveau des pays où on continue à se faire une guerre qui est maintenant économique et pas militaire, mais qui est une guerre de fait avec énormément là, de morts, de gens qui sont au chômage ou de gens exploités dans le tiers-monde, à l'inverse, etc. Donc il y avait cette envie clairement de faire de la politique. Mon sentiment en 97 était que c'était une situation apte à générer des catastrophes dans une situation de guerre non réellement déclarée pouvait amener à des cataclysmes. Il s'avère que le 11 septembre par exemple j'ai vraiment eu alors que j'étais en train de dessiner les planches de destruction de la Terre, je vais arrêter le défilé parce que je me suis dit, ça y est, oui, en effet, ça y est, ça commence, quoi. On est en train de faire ça. Quand je vois des ouragans dont on soupçonne de plus en plus qui sont provoqués par les changements climatiques, je me dis, ça y est, ces catastrophes commencent à avoir lieu. Donc le goût de la catastrophe, c'est à 50% la conséquence de l'envie de parler de cette guerre larvée comme ça, en strates dans nos sociétés. Et puis c'est 50% le goût du film catastrophe, faut être honnête, hein. Il y a ce côté-là. Il y a le plaisir de, enfin, franchement, en tant qu'illustrateur, se dire... Je vais devoir détruire la Terre, la couper en deux, tout ça en 4 pages. C'est vraiment un plaisir brut de réussir cette image-là. Montrer des anneaux de Saturne troués, etc. C'est vraiment un vrai plaisir là, d'illustrateur. Il s'avère que le 11 septembre, alors que je suis en train de dessiner la destruction de New York et qu'un copain m'appelle en rigolant en disant « Ah, tu devrais allumer la télé, il y a un avion qui est rentré dans une tour à New York, tu vas voir, ça va te faire de la doc. » Bah oui, on pensait que c'était juste un accident aérien à cette minute-là précisément, que je l'allume et que je vois en direct le second qui s'en plafonne sur une tour, sur une chaîne d'infos. Et je fais, oui, qu'est-ce qui se passe? Et que dans la journée, je vois arriver mes planches en cours, que je peux même vérifier en effet au niveau de documentation la quantité de fumée que ça fait, au moment où une tour s'effondre, etc. C'est vraiment un moment où je me suis dit, ça y est, t'as un problème, parce que t'as raison sur le fond, et ton goût de la catastrophe, t'es en train de donner des cibles à des connards.
Et puis,
parce que de fait, Ben Laden...
Et l'humour de tes potes.
Ben Laden, il n'a fait que exécuter un scénario hollywoodien. C'est pour ça que cet attentat est si réussi. Et c'est qu'il est devenu une image de hollywoodienne, quasiment. Et à chaque fois qu'on le revoit, faire waouh. C'est un spectacle. Malheureusement, un spectacle à 6000 morts, mais enfin, je ne sais plus à combien, mais c'est un spectacle. Et en fait, ils n'ont fait que copier tout ce qu'avait mis en place le film hollywoodien, le film catastrophe, etc. C'est là qu'est l'intelligence politique des gens qui ont fait ces attentats, mais c'est là qu'est l'horreur de la situation. Si on se pose du côté artiste, c'est à se dire, je nourris ces bêtes-là. Donc moi, ça a vraiment été un questionnement, et alors j'ai arrêté de travailler pendant 2 ans après. J'ai complètement stoppé la BD, j'ai complètement stoppé Universal War One, parce que je me suis dit, j'ai pas de... Qu'est-ce que je fais? Avec quoi je joue? Je veux prévenir la catastrophe, et je suis du côté des gens qui la nourrissent. Parce que malheureusement, je ne suis pas sûr que tous les lecteurs du W1 en referment en se disant ce serait bien qu'on arrête de jouer au con. Je pense qu'une partie ont peut-être envie de le faire.
Essayer, autrement que par le dessin.
Voilà, autrement que par le dessin. Donc c'est vraiment un questionnement qui m'a travaillé, dont je suis sorti uniquement en passant à cette époque-là au numérique. C'est pour ça que j'ai basculé entièrement mon travail sur Photoshop, qui est une nouvelle manière de dessiner, qui quelque part m'a ramené à cette adolescence que je montrais tout à l'heure, le moment où on est obligé on apprend. Où on ne sait pas faire. Et ça a été important de retrouver cette innocence par rapport au dessin, un petit peu, de plus être le gars qui maîtrisait son petit business de dessinateur comme ça. Comme...
Un nouvel outil, nouveaux horizons. Voilà. Ça, l'outil, on en a parlé l'autre soir lors de ta démonstration digitale. Et à propos du dessin, tu parlais des anneaux de Saturne et autres, par exemple. Alors, quand tu mets en scène des situations... aérospatiales, enfin, assez... bien tranchées, tu n'as pas peur de prêter le flanc, disons, à des critiques un petit peu scientifiques qui vont dire « Oh là, Bajram, il a pété un boulon, il va un peu trop loin ou, ». Est-ce que tu as subi ça aussi? Est-ce que, par exemple, quand la BD est sortie...
Quand j'ai créé cette histoire de wormhole orienté, parce que c'est un type de phénomène astrophysique assez spécial qu'il y a dans les W1, d'habitude, un wormhole, c'est un trou dans l'espace qui est ouvert dans tous les sens, qui entre guillemets, est un trou dans l'espace-temps. Moi, c'est un trou particulier, il est orienté. C'est-à-dire qu'il n'est que dans une direction... dans l'espace et dans le temps, et de fait, donc, à cause de ça, il aspire la structure de l'espace-temps. Ce qui est très ambigu, d'où la création de ces gigantesques murs qu'on voit au début. Pour l'instant, je n'ai croisé que des astrophysiciens qui m'ont dit « ça n'existe pas, mais c'est vachement intéressant comme objet ». Donc, ça, là-dessus, j'ai une réponse assez positive. Et moi, j'attends le jour où un étudiant en astrophysique va avoir envie de modéliser le phénomène numériquement, par exemple, pour voir réellement l'impact que ça aurait sur la structure de l'espace-temps d'avoir un objet comme ça. Donc ça, c'est la partie où j'ai vraiment fait mon travail de hard science, entre guillemets. À côté, j'ai des gens qui se baladent dans l'espace, il y a de la gravité partout, ils se rapprochent des étoiles en rigolant. Il y a évidemment un côté pur space opéra, pur plaisir de l'image, pur plaisir de l'action, que je revendique comme tel, parce que je ne suis pas là pour donner un cours de science.
Même si tu te défends d'avoir fait quand même une bande dessinée hard science, tu as quand même conscience qu'elle a quand même cette perception dans le grand public. Mais Parce qu'il y a quand même peu de séries qui ont cette tenue scientifique.
Alors, elle est hard science sur le wormhole, comme je disais. Elle est hard science sur le fait que, sur les voyages dans le temps, j'ai fait un travail de logicien qui est très rare dans la création. C'est-à-dire que j'ai une vraie proposition pour le voyage dans le temps. Ceux qui l'ont lu la connaissent. Qui est logique, autonome, et qui n'avait jamais été présenté dans un cadre de SF. Donc, qui est vraiment là, comme c'est très logique et très précis, on peut parler de l'art science au sens mathématique du terme. Il y a des tas d'endroits où je suis quelqu'un de très sérieux. Donc, évidemment, je comprends pourquoi on me voit comme un auteur de art science. Mais la art science, c'est pas ça. C'est faire, par exemple, partir d'un fait, faire un pronostic avec, construire tout en conséquence de ce fait-là. Et mon système n'est pas du tout comme ça. Moi, c'est avant tout une grande histoire humaine, des personnages, etc. L'art science, c'est des cerises sur mon gâteau, quoi. Et c'est des cerises que j'apprécie beaucoup, et je suis content que les gens les aient appréciées, mais c'est pas le but de mon histoire, voilà.
Oui, c'est les personnages avant tout, quoi, en fait.
Les personnages avant tout, les personnages, les destins humains avant tout, puis après, le côté social, la question sur l'avenir de notre société, la science-fiction de prospective politique, on va dire, éventuellement, et puis après, le space opéra, et puis, voilà, comme du sel là-dessus, l'art science, et pour finir, l'aspect religieux, enfin, je veux dire, quelque part, j'ai fait un sandwich. Le truc le plus original, il n'y a rien d'original dans Universal War One. Ce qui est original, c'est d'avoir mis autant de choses dans un récit. C'est-à-dire que je vous racontais que j'avais écrit toutes mes idées, je l'ai réalisé récemment, que dans ma folie à 27 ans, j'avais fait une sorte de petite encyclopédie des thèmes de la SF, et j'avais décidé de les mettre tous dans un bouquin. Ce qui est complètement cinglé. Parce que normalement, on fait une histoire de voyage dans le temps, ou une histoire de conquête spatiale, ou une histoire de guerre du futur, et j'ai tout fait. Alors, j'ai pas tout bien fait, sans doute, j'ai tout survolé par certains côtés, mais j'ai tout fait. Et c'est peut-être en ça que Universal War One est de la pure science-fiction, c'est que c'est un gigantesque hommage à tous les sujets de la science-fiction, ce qui est assez rare. En général, on est d'un côté ou de l'autre.
Avec une couche de religion, effectivement, et de
qui est un
presque quasi-mysticisme, parce que c'est vrai que quand tu parles du fait de jouer avec l'espace-temps, de la manière dont tu retravailles ensuite le scénario pour pouvoir faire en sorte que le lecteur ait accepté la destruction de la planète et puis que ça continue quand même. Moi, ça fait écho à une autre de tes bandes dessinées, à savoir Abîme. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, puisque cette série-là apparaît dans la période, disons, de vacances de Universal War, mais recoupe complètement le thème d'Universal War.
Ah, mais croise Universal War One même.
Et c'est entre, ouais. C'est entre bouddhisme et quantique. Alors, tu peux nous...
Alors, ça, en l'occurrence, c'est une histoire que je n'ai pas écrite, moi. C'est le troisième tome d'un triptyque qui a été écrit par Valérie Mangin, mon épouse, qu'on connaît maintenant pour le scénario d'Alix Sénator, mais qui a fait beaucoup de science-fiction, dont Le Fléau des Dieux, etc.
Nul doute que c'est un peu perméable entre vous deux.
Voilà. Alors, c'est la mise en abîme, c'est le principe de artistique ou littéraire qui consiste à citer une œuvre dans une œuvre. La mise en abîme la plus simple, la plus connue, c'est la vache qui rit qui porte des boîtes de vache qui rit, sur lesquelles on voit la vache qui rit qui porte des boîtes de vache qui rit. Et donc, la mise en abîme, c'est bien ce sentiment d'abîme qui se creuse. Face à cette profondeur, donc c'est les jeux de miroir qui se répètent, c'est dans Hamlet, le fait que Hamlet fasse jouer une pièce de théâtre pour montrer au roi qu'il n'est pas dupe et qu'il connaît l'histoire de l'empoisonnement, donc il y a un théâtre dans le théâtre, ce qui est très troublant au théâtre évidemment, et ainsi de suite. Nous, on a fait une BD dans la BD. La première histoire, j'ai stoppé là encore une fois, la première histoire, c'est Balzac qui découvre dans un journal, le feuilleton qui raconte son passé. Donc, ce passé qu'il ne veut pas qu'on révèle, et ça va finir par l'emmener au désastre. La seconde histoire, c'est Clouzot, le réalisateur, qui découvre dans des rushs qu'il se passe des choses sur son tournage qu'il ne connaît pas, entre autres avec son actrice principale, la drogue et la libération, parce qu'on est juste après la guerre, donc des histoires de résistants et surtout de collabos. Donc, en fait, c'est le passé qui rejoint dans le premier Balzac. Dans le second, c'est le présent, parce qu'on a les rushs du film, c'est l'instantané. Et dans le troisième, c'est Valérie Mangin, qui, dans les années 90, découvre en librairie le tome 3 d'Abîme, qui va paraître en 2012, et qui achète un livre qu'elle est censée faire plus d'une dizaine d'années après. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement gênant. Il s'avère qu'elle va le perdre très vite pour des raisons diverses. Donc, elle pourra même penser qu'elle a été folle à un moment. Et toute l'histoire, c'est comment le fait que ces futurs albums existent bouleverse la vie de Valérie et la mienne, puisque on finit par se rencontrer, elle finit par...
Oui, tu apparais, et puis...
Voilà, et ça se conclut, entre autres, en expliquant que c'est une des explications à l'écriture d'Universal War, puisque je dis que je savais par cet album-là que j'allais écrire Universal War. Alors, c'est très... Vous voyez, on rentre dans le paradoxe temporel. Je ne sais pas si la dernière planche y est. Ah, parce qu'il y a tout l'album...
Celle où Valérie Mangin traite Denis Bajram de salaud, c'est
voilà.
Ça tu veux dire?
Oh non, oui, dans ces... Alors c'est une histoire amusante, parce qu'on croise des auteurs de bande dessinée. Il y a Jean-Christophe Arleston à Angoulême qui n'avait pas compris qu'on était en train de passer chez Dupuis à l'époque. Des trucs comme ça, enfin, c'est assez drôle. Notre éditeur, les journalistes. Par exemple, ça c'est le journaliste qui a écrit le livre d'entretien dont je parlais. Voilà, donc c'est une histoire qui est très personnelle et qui en même temps évidemment de la profondeur, puisque sur la fin, il y a évidemment le moment où on comprend que c'est bien notre histoire. Et on lit la planche, où on se voit en train de lire la planche, et à l'infini. C'est-à-dire que comme si tout notre destin était écrit. Là, on rejoint la théorie du temps d'Universal War One, puisque dans Universal War One, je dis que tous les voyages dans le temps ont toujours eu lieu. Donc, de fait, le temps est la conséquence de tous ces voyages dans le temps. Donc, de fait, on est dans un monde uniforme, comme le nôtre, à part qu'il est juste gênant de penser qu'il y a des boucles dedans. Voilà. Et ça se termine à la fin par un pronostic. Ou sur les trois dernières pages, nous faisons un pronostic sur notre futur.
Il est pas mal intéressant ton pronostic entre le prix Hugo et puis l'énorme succès planétaire des adaptations cinématographiques d'Universal War.
Voilà.
Ça laisse.
Alors, on avait décidé de faire une fin assez rigolote parce qu'on va assez loin, puisqu'on on finit par vivre des milliers d'années, des centaines de milliers d'années. Puisqu'en fait, c'est une histoire d'amour, donc on a voulu montrer que notre amour était éternel. Donc faire un pronostic de futur aussi ahurissant, c'était le moyen de parler de cette histoire d'amour. Ce qui est intéressant dans cette fin, c'est qu'on... Surtout, ce qu'on veut dire par là, c'est que on ne fait pas d'œuvre artistique sans ambition, sans orgueil démesuré. Faire de l'art sans à un moment être melon premier, il y a un truc qui ne va pas. Le seul truc, c'est qu'au moment où on pose le stylo, on doit redevenir monsieur tout le monde, quoi. On doit avoir l'intelligence de se souvenir qu'on est un être humain comme les autres, voire pire, parce qu'en tant qu'artiste, on a des putains de lacunes sur pas mal de domaines, de sociabilité, par exemple.
Quand tu fais un album de bande dessinée, disons, en étant le scénariste, tu es Dieu pendant un moment.
Mais même quand je suis le dessinateur de Valérie, je suis dieu de l'univers.
Ça, vous réglerez ça plus tard.
Je suis en train d'inventer un univers qui n'existe pas hors de moi, même quand je représente notre réalité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. C'est comme quand je faisais du Lego. C'est d'un seul coup dans ma chambre, il y avait la base complète de Goldorak en Lego. J'avais inventé un univers. Quoi. C'était un univers dans l'univers. Il y a quand même de ça quelque part dans la création. C'est une espèce de conquête de la réalité complètement délirante quand on y pense. Mais, encore une fois. Si on ne met pas d'orgueil là-dedans, moi j'ai toujours toujours dit que l'orgueil c'était fondamental dans mon travail. Quand j'écris ces 18 tomes à 27 ans, alors qu'il y a un éditeur, parce que Didier Tarquin et Christophe Beck lui ont dit que j'étais un mec sympa, me file un contrat où j'ai le droit de faire ce que je veux, à 27 ans je décide d'écrire un truc de 18 tomes. C'est totalement délirant. Maintenant quand j'y pense, je fais mais qu'est-ce que j'avais dans la tête pour oser me lancer dans un projet de 18 ans minimum quoi. Enfin,
mais oui, tant mieux. En plus, à l'époque, t'avais absolument pas envisagé les suites et les implications, puisque là, donc, Universal War est appelé à être adapté en long métrage.
Ah bah oui, en plus, quand on écrit ça, on pense qu'on fera que de la BD. Oui,
quand tu parles d'être, disons, le dieu de ton univers quand tu fais un album de bande dessinée, est-ce que quand tu dois travailler, sachant que ce travail-là va être la pierre angulaire du travail de 200 ou 300 personnes qui vont suivre, est-ce que c'est le même sentiment ou est-ce que tu n'as qu'une envie, c'est revenir chez toi à l'atelier pour te remettre à maîtriser complètement tous les paramètres de ton univers?
C'est un mélange des deux. Je pense, moi, j'arrive pas à travailler si je ne suis pas enfermé 7-8 mois à ma table de travail. Pour vous donner une idée, le dernier tome d'Universal War 2, je l'ai fait en... J'ai retrouvé le fichier. Je l'ai fait, je m'y suis mis en novembre dernier. Et je l'ai fini à mi-juillet et j'ai travaillé 14 heures par jour en continu sans prendre un seul jour de repos. Parce que la bande dessinée, ça prend un temps de fou. Mais cet enfermement, j'en ai pas été malheureux, bien au contraire. Parce que ça a été 14 heures par jour à vivre dans un univers sur lequel j'avais une maîtrise totale. Même si mon niveau technique, etc., n'était pas toujours à la hauteur de ce que j'espérais. En tout cas, c'était un endroit où chaque effort que je faisais avait du sens. Alors que dans la réalité... Chaque effort qu'on fait souvent se heurte à la triste réalité, au comportement des autres, etc. Et tout. Donc c'est des moments assez magiques. Alors en même temps, si on fait ça pendant 10 ans, on devient Van Gogh, on se coupe une oreille et on devient fou. Donc c'est vraiment important de savoir retourner à la réalité, mais c'est des moments assez géniaux de pouvoir vivre ça.
Et alors quand tu retournes à la réalité, parce que là tu es en train de nous dire que tu travailles 14 heures par jour et que l'album a duré quasiment moins d'un an en fait. Juste pour savoir, donc, dans les périodes de 7 ans, qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu peux nous faire un petit medley de...
Ah oui, alors pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent pas, on a fini donc Universal War 1 en 2006 et le nouveau tome sort seulement maintenant. Donc pendant 7 ans, il a fallu que je prenne des vacances parce que ce bonheur que j'ai à travailler autant, c'est aussi une implication gigantesque et à la fin d'Universal War 1, j'en pouvais plus, quoi. Mais j'en pouvais plus d'une chose particulièrement, c'était de dessiner des vaisseaux spatiaux, de dessiner des mecs qui faisaient la tronche du matin au soir, habillé dans des costumes militaires, entre quatre plaques de métal, et l'espoir d'avoir un décor, c'était une planète géante gazeuse, quoi. Il y a un côté quand même un peu éloigné du plaisir d'un bon ciel bleu, d'un arbre, d'un chat, un cheval, une fleur, une voiture même. Et donc, moi, j'ai vraiment, à un moment, j'en ai eu marre, quoi. J'avais l'impression d'être un plombier spatial, quoi, à construire des raffineries dans l'espace, quoi.
Mais en même temps, par exemple, dans Abîme, c'est pas non plus Achitalon, quoi. Enfin,
non, mais c'était totalement différent. Alors, j'ai fait trois crises entre les deux, qui se passaient au Moyen-Âge, qui est un album concept, que j'ai dessiné de manière quasiment impressionniste, tout en lumière, sans trait de détourage, et avec une matière très riche. Oui, j'ai des images, je peux vous montrer ça. Voilà.
Et alors, pour parler de ce temps entre quelques albums et autres, ça me renvoie à ta rareté. Tu es quand même un auteur assez rare et par exemple j'en viens au festival et aux dédicaces par exemple, est-ce que tu peux nous dire juste à un moment donné qu'est-ce qui t'a amené à arrêter les dédicaces? Là pour parler juste d'un aspect purement pratique de la profession, mais employer des gros mots. Hein.
Non, mais fondamentalement ça a été le déclic, ça a été le mauvais comportement de trop de gens. On les connaît, les mauvais comportements des collectionneurs de dédicaces, c'est la revente sur eBay, tout ce genre de choses. Mais moi, ça a été dans des files de dédicaces, C'est en train de dédicacer pendant, avec des gens qui étaient là depuis genre 9h le matin, à une séance qui démarrait à 17h, d'être en train de dédicacer à des gens complètement abrutis devant moi, parce que même Einstein, au bout de 8 heures de queue, il est con. Hein. Et puis d'avoir par miracle, au milieu de ça, tout d'un coup, un lecteur, un vrai, qui me parle un peu de mon album. Et puis on commence à discuter, et au bout de 2 minutes, j'entends dans la file quelqu'un qui fait « Ça y est, il recommence à discuter, on va prendre 10 minutes de retard. » C'est exactement la raison pour laquelle j'ai arrêté. C'est-à-dire que fondamentalement, la dédicace, c'est le pire endroit pour rencontrer les lecteurs. Depuis que j'ai arrêté, je rencontre mes lecteurs. Je les rencontre au bar, je les rencontre dans les allées, ils m'arrêtent, on papote, je les rencontre dans les conférences qu'on fait, je les rencontre après une conférence comme ça, si tous ceux qui veulent venir parler, parce qu'ils ne voudront pas poser une question en public pour venir discuter, je rencontre vraiment les lecteurs. Et le petit dessin, il était devenu l'objet de la rencontre, alors que ça n'aurait dû être que la conséquence de la rencontre. Et donc j'ai fini par complètement arrêter le petit dessin, parce que ça rend les gens fous, quoi. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'on puisse, à Angoulême, arriver le matin à 7h devant les bulles qui ouvrent à 9h pour faire la queue jusqu'à 18h, à l'heure à laquelle je suis annoncé. Je serais même Hergé, je ne comprendrais pas. Mais je serais Jésus, je ne comprendrais pas, quoi. Parce que fondamentalement, on fait pas ça pour... Enfin, je fais pas ce métier pour avoir des gens qui font la queue devant moi. Enfin, c'est ahurissant. Quand je fais un album de bande dessinée, le seul objet qui compte, c'est l'album. Tout le travail, il est fait pour que vous ayez l'œuvre originale entre les mains en achetant un album en librairie, ou en le volant, ou en l'empruntant à la bibliothèque. C'est même pas l'acte commercial qui compte, c'est réellement le fait que vous teniez cet album en main.
Là, t'es en train de... Il y a peut-être des éditeurs dans la salle.
Ouais, que vous... Non, mais je n'aurais pas dire ça, c'est mon gagne-pain. Mais que vous installiez dans un fauteuil ou sur vos toilettes et que vous le lisiez et que vous preniez votre plaisir. C'est ça qui compte, quoi. Et quand vous avez l'album en main, vous avez l'original, le seul original. Tout le reste, ça n'a aucun intérêt. L'œuvre, elle est là. Et moi je fais ça, ce métier pour là. Et quand au moment où on est censé être autour de ce livre, à en parler, que les gens me disent qu'ils ont aimé, pas aimé, bon, principalement ce qu'ils ont aimé, c'est plus agréable, mais... Dans l'absolu, surtout qu'ils me disent comment ils l'ont aimé. Parce que moi, j'ai beaucoup de surprises quand je vois les lecteurs. C'est souvent très décevant même, mais c'est bien que j'ai ces déceptions-là. Je réalise qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Je réalise que la majorité des gens lisent ça un peu comme du loisir et n'ont pas plongé dans les profondeurs que j'ai essayé de mettre dans le bouquin. Mais tant mieux, il faut que je m'en rende compte. Et c'est vachement important que je vois le public pour ça. Je réalise que les gens pensent que c'est du cinéma, alors que j'ai fait tout mon possible pour que ça n'en soit pas. Des tas de choses comme ça. Mais je suis vraiment super content d'avoir ces remarques-là et je les ai pas en dédicace. Parce qu'en dédicace, il ne faudrait pas me fâcher parce qu'il va me louper mon dessin. Enfin, on en est là. Hein. Et puis surtout, alors à la fin, en dédicace, c'était les 500 pros de la dédicace en France qui ont des forums privés sur lesquels ils s'échangent les horaires, les bons plans. Moi, je les appelais les maroquiniers parce qu'ils arrivent toujours avec des sacs gigantesques derrière eux. Et on finissait par avoir des séances de dédicace avec, on avait l'impression d'avoir un magasin de maroquinerie devant la table. Donc voilà, quoi. C'est pour ça que j'ai arrêté.
D'accord. Et donc pendant cette période, je dirais un petit peu de recul. Tu as eu quelques activités aussi éditoriales qui se sont arrêtées.
Oui.
Avec Cadran, par exemple.
Oui, tout à fait. Oui. Ces questions, vous avez peut-être remarqué, je me pose des questions sur mon métier, ma place d'auteur dans la société, la manière de faire les choses. Je me les suis posées pour en me disant, ces questions-là ne concernent pas que moi. Valérie et Mangin, mon épouse, on s'est vraiment posé cette question-là en même temps. Et on s'est dit que cette expérience, cette compréhension qu'on avait de notre métier, qu'on avait avec le temps, on pouvait peut-être la partager avec d'autres. On a vraiment eu envie de créer un secteur éditorial de gens qui se posaient le même genre de questions. En gros, qui voulaient aller vers une bande dessinée assez particulière, qui est celle qu'il ne faut pas faire en France. La bande dessinée que je fais est celle qu'il ne faut pas faire en France. C'est celle où on fait de l'art pop, c'est-à-dire qu'on accepte de parler à tout le monde. On donne toutes les clés, etc. Et en même temps, on s'implique comme si on était un artiste d'avant-garde. C'est-à-dire que quelque part, on rejette le principe commercial. Comment expliquer ça ? Nous, on avait synthétisé ça pour faire de la bande dessinée grand public d'auteurs. En France, où on est du côté de TF1, où on est un artiste maudit. Alors que chez les anglo-saxons, particulièrement les anglais, il est totalement admis de faire les Beatles, c'est-à-dire de faire de la chanson à chanter sous la douche, mais qu'on va pouvoir étudier à l'université éventuellement. Moi, j'adore ce pays pour ça. J'aimerais bien qu'en France, on arrive à faire plus ça, c'est-à-dire à pas avoir... Ici, par exemple, les Utopiales, c'est un endroit génial pour ça. On voit des scientifiques, on voit des auteurs de littérature très pointue, on voit après de la littérature pour enfants très simple, etc. Tout ça est mélangé, tout le monde discute. J'adore être ici pour ça, parce qu'on retrouve cette impression qu'on est tous, quelque part, en train de faire la même chose. Et essayer d'apporter, un, du bonheur aux gens, l'aspect presque entertainment de l'affaire, mais les faire réfléchir, l'aspect intellectuel, mais les transporter en dehors de toute réalité, l'aspect évasion, voire poétique. Enfin, toutes ces choses-là, on est censé pouvoir mettre ça dans une œuvre. On n'est pas obligé de choisir entre Navarro et Picasso, quoi. Enfin, c'est vraiment terrible, quoi. Or, en France, c'est ça. Donc, nous, et on le voit en BD très fortement, puisqu'on parle de nouvelles BD, où il faudrait presque mal dessiner, enfin, faire semblant de mal dessiner. Moi, j'ai vu des gens qui dessinaient classiquement, se mettre à dessiner la main gauche pour pouvoir faire des albums de nouvelles BD. Enfin, on est dans le grotesque, quoi. Alors, on a cette nouvelle BD où, à côté, il faudrait faire uniquement de l'heroic fantasy avec des grosses haches, quoi. Enfin, comme si, déjà, on ne pouvait pas faire de l'heroic fantasy intelligente. Mais je pense que quelqu'un qui arriverait avec un projet philosophique en heroic fantasy se ferait jeter de tous les éditeurs. Et à l'inverse, quelqu'un qui arriverait avec un album nouvelle BD qui voudrait, mais qui aurait un côté très ludique, presque, je sais pas, les schtroumpfs, se ferait jeter la mer, on lui dirait, mais c'est trop simple. Donc voilà, moi j'aimerais bien, quand on a fondé notre secteur d'édition, c'était vraiment pour essayer de faire des bouquins entre les deux. De fait, c'est une expérience un peu décevante.
Et aujourd'hui, tu as gardé de bons contacts avec tous les éditeurs avec lesquels tu as travaillé, ou est-ce que tu penses que, entre guillemets, s'il y a ce bon contact, c'est aussi parce que, excuse-moi, mais tu représentes du coup un poids dans la bande dessinée aujourd'hui, puisque les albums se vendent toujours au même taux de vente depuis tant d'années.
Oh bah, c'est pas un secret, hein. Universal War One, les 6 premiers tomes, 5 millions cumulés. Donc ça commence à représenter de l'argent. Tout éditeur qui me croise au moment où je renégociais Universal War 2, parce que j'ai changé d'éditeur, voyait en moi le potentiel de 1 million d'albums, ce qui représente un peu de pépette. Donc inévitablement, ils me trouvaient tous géniaux. Bon, voilà, j'ai pas d'illusion à avoir là-dessus, mes rapports sont totalement faussés avec l'édition. Ils sont même faussés avec une partie de mes collègues, parce que comme Valérie est scénariste, qu'elle marche bien aussi, qu'on fait de la direction artistique chez des éditeurs, etc., ils voient en nous l'opportunité d'avoir du boulot éventuellement s'il y a un moment ça va mal. Donc,
Ou en table de dédicace, ils veulent plus s'asseoir à côté de vous deux, j'imagine, non ?
Bah, je dédicace plus, donc il n'y a plus de problème. Voilà. Mais de fait, voilà, les rapports sont un peu faussés, mais bon, ça va, on est quand même dans un milieu en bande dessinée. On a une énorme chance, c'est qu'on est méprisé par une bonne partie des médias, télévision en tête. Quand je dis méprisé, c'est le mépris ultime, hein, on n'existe pas. S'ils disaient du mal de nous, ce serait déjà un grand progrès, quoi. Quand on voit de la bande dessinée à la télévision, c'est que c'est un succès qu'ils ne peuvent pas contourner, genre Astérix. Puisqu'il y a un Français sur 10 qui l'achète. Donc bon, là, il y a un moment où ils sont obligés d'en parler, ou Titeuf, ou ce genre de choses. Et puis c'est tout. Donc c'est quasiment à la page économique qu'on apparaît, à chaque fois qu'il y a un gros succès. En dehors de ça, on n'existe pas. Mais moi, je trouve ça génial. Parce que je pense que les petites tensions dont je parle là, qui existent dans ce milieu, elles seraient démultipliées si on était exposés de manière très forte.
Pour pas le citer, par exemple, Soleil Édition, beaucoup assez médiatique dans le...
Oh, c'est très relatif, hein, c'est extrêmement relatif. Non, mais je pense à la littérature, par exemple, où il y a des écrivains qui ne se parlent pas parce qu'ils sont en train de compter leurs interventions à la téloge, quoi. C'est un concours d'existence, quoi. C'est plus un concours de livres. C'est un concours de célébrité. En bande dessinée, on ne sera jamais célèbre. Uderzo peut marcher dans la rue, je ne sais pas qui d'entre vous le reconnaîtra. Et moi, je trouve ça génial, parce que c'est vraiment... la seule chose qui compte, encore une fois, c'est ses livres. C'est en bande dessinée, on est très peu faussé par la célébrité, quoi. C'est pas parce que j'ai été chez Marvel que les gens se mettent à pleurer en me croisant. Enfin, y a juste 3 fans de comics, et puis ça s'arrête là. Et tant mieux. Moi, je suis super content de ça. Moi, j'ai envie, en effet, qu'on m'arrête dans les couloirs pour me parler de petits trucs simplement, sans devoir comme on fait au cinéma ou à la téloge.
Si chacun veut te payer une bière, t'es pas prêt de.
Ah, mais je peux même en payer une s'il le faut, quoi. Mais je veux dire, il n'y a pas de cordon de sécurité à franchir. Ça, c'est formidable, quoi.
Alors, tu parles quand même souvent de cinéma, tout en disant que la bande dessinée, c'est pas du cinéma, en fait. Alors, c'est vrai que il y a quand même eu des théories sur la narration, sur la façon d'appréhender le case après case, qui peut quand même être assez proche dans l'esprit du grand public du cinéma. Et maintenant, tu as une expérience complète avec le cinéma, puisque tu es en train de travailler sur l'adaptation de la série.
Oui, alors
est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Je peux parler du cinéma en précisant bien que le cinéma, il y a un producteur qui m'a dit, sur beaucoup de projets artistiques, on prend une pièce, on la retourne sur la table et puis on espère que ça va tomber du côté face. Il dit au cinéma, on prend une pièce, on la jette en l'air et on espère qu'elle ne va pas disparaître. C'est-à-dire que déjà, le fait qu'elle retombe sur la table, c'est déjà une chance incalculable. Au cinéma, un projet lancé a une chance sur 10 000 d'aboutir. Alors nous, on est un peu au-delà de ça, parce que j'ai un producteur qui a des moyens financiers importants, qui y croit et donc a vraiment envie de le faire, et qui est en train de mettre de l'argent sur la table, alors que, entre guillemets, la production n'est pas lancée. Alors au cinéma, il faut savoir, la production, c'est le moment où l'argent est réuni, et donc on met Universal War One, pour l'instant, le projet est calibré à plus de 40 millions d'euros. Donc, le moment où les 40 millions d'euros sont sur la table et la production démarre vraiment. Là, on est dans le stade préliminaire. où on fait du développement. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir le scénario, un premier impact visuel, mais ça, on l'a avec les livres, donc il n'y en a quasiment pas besoin, pour terminer de convaincre les gens qui vont mettre, parce que le producteur initial, il va mettre 20 ou 30 millions, il a besoin d'un deuxième pour mettre 10, il a besoin d'un studio américain, parce que le film va être tourné en langue anglaise, qui lui assure la diffusion aux États-Unis, donc les Américains vont en mettre 10 ou 20, etc. Donc là, on est dans la phase vraiment d'investissement. Et il investit beaucoup, parce qu'il a débauché un très gros scénariste américain, qui est fan de la série. Le producteur est un lecteur de la série, donc il a vraiment envie. Donc pour l'instant, on est dans un stade où ça se passe au mieux. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie de faire Universal War One au cinéma. Ce serait l'idée, c'est de faire un film avec toute l'histoire de la première série.
Ah, il n'y aura pas 18 films.
Voilà, il n'y aura pas 18 films. Puisque de fait, si ça marche, ils ont la suite du scénario, je leur ai montré. Donc évidemment, tous ceux qui ont lu la série savent que condenser ça en 150 minutes, on est sur un film de 150 minutes, ça va pas être facile. Donc il y a le travail actuel qu'on a commencé avec le scénariste, a été de... moi je leur ai expliqué, on était à Bruxelles il y a 15 jours, avec les producteurs exécutifs, le scénario, etc. Je leur ai expliqué ce qui était important ou pas dans Universal War One. Parce que quand on le lit, on pense qu'il y a des choses importantes. Et en fait, moi, je sais qu'elles ne le sont pas, parce que ça fait 15 ans que je me traîne mon histoire, donc j'ai fini par comprendre où étaient les ressorts. Et donc, j'aurais vraiment expliqué, détail par détail, scène par scène, ce qui comptait et ce qui ne comptait pas. Donc, les endroits où il avait le droit de couper, sans risque, juste avec une diminution de la quantité d'informations dans la série, et peut-être de quelques événements, mais ce n'est pas très grave, et les endroits où on était au cœur. Et ce n'est pas toujours sur les trucs les plus importants. Je lui ai dit, par exemple, qu'à mon avis, le trou dans les anneaux de Saturne, on n'en avait rien à foutre, quoi. C'est pas l'histoire peut se passer sans ça. Alors après, c'est une jolie image pour le cinéma. Si on arrive à la conserver, c'est évidemment une chouette scène. Mais en tant que scénario, elle est à réintroduire après, si on a la place. Alors qu'il y a des détails de personnalité de certains personnages, il faut absolument qu'on ait une scène dessus. Parce que si on ne le fait pas, eh ben, ça a l'air de fonctionner. Puis en fait, on arrive à la fin et le personnage ne raisonne plus. Il a perdu son âme. Et ce n'est pas obligatoirement la scène d'ouverture à chaque fois où je raconte le passé. Ça peut être une micro-scène. Le câlin entre Kalish et Balti au début du tome 1, qui a l'air de rien, qui est une micro-scène, si on ne met pas ça, on est en train de démonter tout le fonctionnement des personnages. Et c'est un hug à la con, comme il est tant à la mode de se les faire maintenant, mais il est indispensable. Voilà, donc c'est ce genre de choses auxquelles je veille avec eux. Alors ils ont vraiment... Bon, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils m'écoutent. Alors en général, au cinéma, on signe un machin, puis on se débarrasse de l'auteur, parce que c'est un chieur. Il a toujours envie qu'on fasse son film exactement comme il avait fait son roman ou sa BD. Moi, en l'occurrence, je sais que c'est... Alors, peut-être parce que j'ai eu la chance de travailler un peu dans le cinéma à la fin de mes études aux Arts Déco, mais je sais qu'un film, c'est autre chose, que ça n'a rien à voir. Et je suis prêt à ce qu'on modifie beaucoup Universal War One pour que ce soit un bon film. Si c'est pour que ce soit un bon film, ça ne me pose pas de question que ce soit plus simple, un peu plus facile d'accès, un moins complexe, moins riche. Tant qu'il y a les ressorts principaux y sont, je serai content. Et si par hasard, il y a des gens qui entendent se dire que la BD est mieux, qu'il y a beaucoup plus de choses, eh bien tant mieux. Ils iront lire, et pour moi, la seule œuvre qui compte, et là j'y reviens, c'est la bande dessinée. C'est-à-dire qu'ils peuvent me faire 4 milliards d'entrées dans le monde avec mon film. Le film pourrait être tourné par Kubrick et être un chef-d'œuvre. Il n'empêchera que pour moi, Universal War One sera toujours la bande dessinée.
Non, t'as du bol là, c'est
voilà,
pas possible.
Je serais juste content de prendre le pognon et j'offrirai une fête géante aux Utopiales pour fêter ça. Voilà.
Donc dans le deuxième tome, en fait, tu reviens à ce que tu fais dire à la maîtresse d'école, à savoir quand elle explique le saut temporel de Kalish et que l'élève lui dit « c'est compliqué, madame », elle lui dit « il suffit de choisir un fil et de le suivre ».
Oui, ça c'est la méthode de lecture d'Universal War One pour les gens qui, à des moments, ont l'impression de ne pas avoir compris. Ben, ils le relisent en suivant un fil. Et puis
je ne vous demande pas de lever la main hein, pour ceux que ça...
c'est pour ça que j'avais fourni le schéma final dans l'intégrale où on voit tous les fils, justement, pour que les gens puissent suivre les quelques fils plus facilement. Voilà. Mais c'est pas en même temps, il y a des gens qui connaissent peut-être pas, c'est pas une histoire compliquée. Pour moi, c'est une histoire qui commence comme un blockbuster américain. Les premiers lecteurs que j'ai eus, je les croisais, ils étaient. Je me souviens, au tome 1, ils me disaient Ah, c'est bien, il y a de la baston, les personnages sont sympas et tout. Je pense que personne ne s'attendait à ce que je les emmène sur la quasi-discussion philosophique de la fin. Quoi. Et moi, c'est le côté art-pop, j'y reviens, mais c'est vraiment le côté. Au départ, ça commence avec un truc sympa, un petit rythme, on bouge ses fesses. Puis à la fin de la chanson, on fait « Waouh, il m'a parlé de la vie et de la mort ». Et ça, c'est mon plus grand plaisir. Quoi. J'aimerais bien réussir ça. C'est ce que j'aime chez Brel, c'est ce que j'aime chez les Beatles, c'est ce que j'aime au cinéma chez Kubrick, par exemple, qui n'a jamais, enfin au début en tout cas, qui ne refusait pas le côté film à grand spectacle, mais qui savait l'emmener très loin. C'est ce que j'aime dans les séries télé comme Les Chapeaux Moulants en bottes de cuir, Voilà, enfin, c'est ce que j'aime dans Soprano, où finalement c'est une histoire de mafieux à la con, des mariages, des familles, ça ressemble presque à un soap brésilien. Puis ils vont vachement loin sur l'étude des caractères humains. Et voilà, j'espère que j'ai réussi ça. À l'époque, je disais j'aimerais bien avoir réussi ça. Maintenant, il faut que je dise j'aimerais bien avoir réussi ça. Ça, c'est le public qui le sait maintenant.
J'aime bien ton idée là, de commencer par, comme tu as dit, se bouger un petit peu et voir où on peut voir. Donc, tu es en train de nous dire que là, on est juste en train de... C'est les prémices de Saturday Night Fever et qu'on va finir avec la Bible, en fait. C'est ça, à peu près
Moi, j'espère que... ça va me prendre quelques années pour finir ça. Là, je vais passer 6 ans à faire la deuxième saga. Je pense que je referai une pause, parce que le dessinateur aura besoin de prendre de l'air. On va dire une pause de 3 ans. Je suis en train de mûrir, donc je commence à apprendre de l'air rapidement, donc ça va mieux. Et puis, je ferai la deuxième saga, puis ouais, j'aurai 60 ans. J'espère qu'à ce moment-là, on se fera une petite conférence, un bilan.
Un énième utopiel.
Et que tout le monde aura vu à quel point, en essayant de prendre les enfants par la main au démarrage, je les relâche dans un monde de monstres à la fin. Merveilleux et effrayant à la fois. Voilà.
Ouais, les enfants par la main au démarrage, je vous laisse découvrir les enfants du premier tome de la deuxième série. Ils seront pas mal. Je ne sais pas si on peut faire passer un micro à chef s'il y a des questions. Mais sinon, vous irez peut-être le... Ah oui, c'est possible, c'est super. Et puis après, vous continuerez donc au bar.
Bonjour. Donc c'était pour savoir... Enfin, j'ai lu le premier cycle, hein, et c'était pour savoir pourquoi vous avez mis tout ce côté biblique. Je suis pas sûr d'avoir complètement compris ça, en fait. Parce qu'apparemment, ça va continuer tout au long, et je suis pas sûr d'avoir tout cerné.
L'explication, elle est à la toute dernière page, quand on voit Kalish écrire cette Bible. Là, évidemment, c'est alors, il y a deux choix quand on fait une création. Ou on fait une œuvre fermée, on explique tout, ce qui est un peu ma tendance, et c'est quasiment le seul truc que j'ai laissé ouvert dans Universal War avec l'arrivée du monde de Canaan à la fin, assez volontairement, parce que j'avais bien envie que les gens se posent la question de savoir pourquoi Kalish, ce mec si rigoureux, si scientifique, se mettait à écrire une Bible. C'est une chose qu'on va mieux comprendre dans Universal War 2, mais je suis content que vous vous posiez la question, parce que c'est une vraie question. J'y ai répondu à quelques journalistes déjà qui demandaient très fermement, je peux vous l'expliquer tout simplement. C'est que je me suis simplement mis à la place de Kalish. Alors, j'ai un monde qui est en guerre totale. Pour arrêter ça, va falloir faire un acte radical. Je viens de rencontrer mes descendants qui me disent qu'en fait, je vais remonter 300 ans dans le passé, créer une civilisation qui mette fin à la guerre. Je fais « Ok, il faut que je crée une civilisation. Watcha !» Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question. Qu'est-ce que je ferais si je créerais une civilisation? Moi, jusque-là, je ne me l'étais pas posé. Et je me suis mis à la place de Kalish. Je me suis dit « Bon, je vous ai dit, quelqu'un très rationnel. » Mais il s'avère qu'avant d'avoir été très rationnel, moi j'ai été croyant, très croyant jusqu'à l'âge de 17 ans et puis plus du tout après. Et j'ai toujours une culture religieuse qui est présente, qui est maintenant une culture, on pourrait dire, quasiment historique et littéraire et artistique, mais qui est très présente. Je continue à lire de temps en temps des bouquins de théologie parce que j'aime la mécanique de la théologie. Je me suis dit à un moment, allez, tu vas faire ce que toi t'aurais fait. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors, je vais faire une civilisation super intelligente, super scientifique. On va faire un plan, etc. Et puis, alors, d'un seul coup, je fais, ouf, ça me rappelle quelque chose. Le ministère du plan, la civilisation scientifique, etc. C'est le marxisme. C'est l'essai qui a été fait en Russie, etc. Et immédiatement, il y a un petit frisson qui me passe dans le dos en me disant, c'est peut-être pas si au point que ça. Pourquoi c'est pas au point, tout bêtement? C'est que tout expliquer... Vivre une vie où tout est organisé et où tout est expliqué, c'est un cauchemar. Et je pense que quelque part, il y avait le rêve de la société scientifique absolue, rationnelle absolue, oublier que fondamentalement, prévoir la vie des gens, il n'y a rien de pire. Et je me suis dit, il faut mettre du flottement là-dedans. C'est pour ça que je me suis dit, moi, ma seule solution, ce serait d'écrire une Bible. Un bouquin bizarre, incompréhensible, qu'on est obligé d'interpréter et qui veut rien dire par beaucoup de côtés. Alors, il s'avère que la Bible de Canaan, donc on voit dans tout Universal War One et qu'on continue à voir, il y a le mot Dieu dedans, qui pourrait sous-entendre que c'est une religion, mais il est bien dit dans un des textes que Dieu, c'est le temps. Donc, de fait, c'est une notion scientifique. Il utilise le mot Dieu pour désigner le temps. Et donc, on peut relire tous les textes, on s'aperçoit qu'en fait, il parle du temps. Alors, hop, on commence à démonter. Et en fait, si on démonte les textes, ils ne sont que scientifiques, où ils racontent des événements qu'on a vus dans la série. Donc, en fait, ils n'ont aucune portée religieuse, à part que le ton... Et il est totalement mystique, totalement barré.
Oui, c'est un peu messianique.
Voilà. Et ça, c'est pour introduire cette espèce de vibration dans la réalité. C'est réenchanter le monde scientifique qu'il risquait de créer en créant Canaan. Et il appelle ça Canaan parce que c'est le nom du pays où coule le lait et le miel dans la Bible, où atterrissent les Hébreux en sortant d'Égypte. Il appelle le conseil le Sanhédrin, c'est le nom du conseil de, parce que c'est cette culture religieuse judéo-chrétienne qu'il a et qui est le nom du conseil juifs en Israël à l'époque du Christ, etc. En fait, il utilise ça juste pour introduire de la merde, par ça d'un côté, de la vibration, de la poésie, des choses qu'il va falloir discuter. Parce que le reste, il n'y a pas à discuter. Ils sont là pour sauver l'humanité, ils ont des moyens pour y arriver, ils ont la science pour eux. C'est quasiment une équipe de scientifiques, les gens qui l'emportent. Il dit bien qu'il a libéré, ils ont libéré des scientifiques de prison. C'est des gens super intelligents qui sont capables de mettre fin aux différences de richesse, à la maladie, à des tonnes de choses comme ça. Donc, mais créer la fameuse vie de cauchemar, le monde parfait, la société orwellienne absolue, celle qui n'aurait même pas besoin d'être contrôlée tellement les gens seraient dans le plan. Donc voilà, c'est ça la Bible de Canaan. C'est cette espèce de n'importe quoi. Je crois que j'aurais eu une culture non religieuse, je sais pas... J'aurais pas eu cette culture religieuse, peut-être que je serais passé par le côté la musique punk que j'ai fait, donc ils auraient été tous obligés de jouer du punk. Quoi. Voilà. Il s'avère que chez moi, c'était la première culture importante, elle a été religieuse, donc j'ai pris ce biais-là pour fausser la réalité. Voilà.
Est-ce qu'il y aurait une deuxième question ?
Merci. Finalement, votre mécanique biblique fonctionne presque plus comme l'attitude d'Harry Seldon dans Fondation. C'est-à-dire, quand revient en arrière Kalish, il a les clés déjà. Mais pour ceux qui naissent à cette époque, 300 ans en arrière, on a un peu le sentiment de se retrouver avec les apparitions d'Harry Seldon dans le cycle, dans
oui,
les mille ans,
sachant
que l'avenir, ça va être de sauver aussi l'Empire Galactique dans Fondation.
Oui, oui, mais il y a de ça, il y a clairement de ça. C'est un livre qui m'a sidéré quand j'étais, j'ai lu à 11 ans ou 12 ans, ça a été un choc. Il y a d'une, particulièrement l'Empereur Dieu, où lui-même livre des discours qui peuvent être totalement déconnectés d'une certaine réalité et qui permettent de nourrir la libération, parce qu'il parle bien de libérer la grande explosion de la fin de l'Empereur Dieu de Dune. C'est le moment où l'humanité va se disperser dans toute la galaxie et enfin elle ne peut pouvoir mourir parce qu'elle sera, et il le fait en déclenchement à nouveau des événements religieux tels que avaient fait ses ancêtres. Donc il y a vraiment ces idées là clairement, hein. Alors, je revendique toutes mes filiations avec beaucoup de plaisir parce qu'encore une fois j'ai fait une encyclopédie de la SF. Donc, je vous dis, détail par détail, je crois qu'il n'y a rien d'original. Je pense qu'on pourrait à chaque chose retrouver une source. Parfois, moi, je ne les ai pas repérées parce que ça m'est venu comme ça. Hein. Je ne dis pas que quand j'ai écrit ça, j'ai pensé à Fondation. Hein. Mais évidemment que c'est une influence énorme. Donc, je pense que Universal War One, on le découperait en lamelles, on le mettrait sous microscope, on pourrait trouver la source de toutes les idées. Là, ce que j'espère avoir réussi, c'est cette espèce d'encyclopédie qui est fonctionnelle. C'est-à-dire que je pense que quand les gens lisent, ils ne pensent pas du tout que c'est une encyclopédie de la SF. C'est une vraie tragédie humaine, etc. Et en même temps, je suis assez content d'avoir réussi à compiler tout ça dans un bouquin. Mais bien sûr que les références sont toutes là. Il y a même des références à des bouquins qui n'étaient pas parus à l'époque. Il y a des gens qui m'ont dégainé des références à Hyperion, qui n'étaient pas traduits en France à l'époque, qui étaient à peine parus et que je n'avais pas lu. Comme quoi, j'étais bien de mon temps, en train de me poser les mêmes questions que mes petits collègues, etc. Donc, et ça ne me gêne pas de dire qu'il y avait des références par anticipation à Hyperion et à d'autres choses.
C'est encore une mise en abîme.
Oui, non, mais quelque part, voilà, ça prouve juste que je suis inscrit dans la science-fiction. Je suis un fou de science-fiction complet et total, quoi. Voilà.
Je crois que ça se voit, il me semble. Je suis obligé de nous dire au revoir. Hein. On va pas pouvoir donner rendez-vous pour une prochaine dédicace, si on a bien compris. Donc je peux pas vous dire que vous allez le recroiser pour une dédicace prochaine, mais je pense qu'on va le recroiser pour se revoir régulièrement pour les 9 prochains tomes.
Ouais, hein, on va faire ça.
Moi, 9,5.
J'ai tellement de plaisir à venir ici qu'il y a juste besoin de m'inviter.
Ça tombe très bien. Merci à toi, Denis, de nous avoir fait rêver. Merci à vous.